Donc bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par remercier tous les organisateurs du colloque, et plus particulièrement Juliette Gallonnier et Seydi Jamil Diane, à qui j'ai eu affaire ces dernières semaines. Je me réjouis d'être ici à ce colloque, où il y a véritablement les meilleurs spécialistes de l'islam subsaharien et comorien en France. Je prends depuis ce matin un réel plaisir à écouter et à apprendre des interventions riches et stimulantes, jusqu'à tout à l'heure, et j'espère que ça va continuer cet après-midi et demain. Je suis en effet diplômé en islamologie et droit à l'université de Strasbourg, où j'envisage d'accomplir une thèse sur l'organisation et la gestion publique de l'islam en région Grand Est dans une perspective comparative avec la province du Québec. Ma présentation portera sur les musulmans d'origine subsaharienne en Alsace et plus particulièrement dans la ville de Mulhouse. Elle est justement tirée d'un passage de mon mémoire intitulé « Paysage, organisation et gestion publique de l'islam en Alsace ». Un mémoire de Master 2 Recherche, Droit des religions, soutenu à l'Université de Strasbourg sous la direction du professeur Francis Messner, directeur au CNRS, spécialiste de l'organisation et du droit des religions en Europe, et de M. Jean-Marie Verling, président de l'Institut du droit local et président honoraire du tribunal administratif de Strasbourg, et expert au Conseil de l'Europe sur les questions relatives au culte, au droit constitutionnel et droit administratif. Comme vous le savez, aller à la découverte de la communauté subsaharienne musulmane au cœur d'un contexte circonscrit où l'Alsace est une entreprise délicate, audacieuse, pour le chercheur ou la personne intéressée, dans la mesure où les sources traitant du sujet sont rares. Mon intervention se fera en plusieurs parties. La première, présence subsaharienne en Alsace. Les musulmans de Mulhouse, une population riche par la diversité de ses origines et son tissu associatif. L'association des sunniquets d'Alsace et sa mosquée, Abou Bakr, à Mulhouse. L'échec du Conseil islamique de Mulhouse dans les années 90, une volonté municipale de centraliser l'islam local autour d'une grande mosquée garantissant la représentativité sans distinction d'origine. Il y avait les Maliens, les Sénégalais, les Marocains, les Turcs, mais ça a été un échec. La visibilité de l'association des sunniquets d'Alsace dans son environnement, Conseil régional du culte musulman, coordination des mosquées locales, GAIC, le dialogue interreligieux, et l'aumônerie dans les hôpitaux. Et enfin, l'implication des musulmans d'origine subsaharienne au sein du tissu associatif communautaire local, au-delà de leur propre association. Il y a un mois, le 11 novembre précisément, la France célébrait le centenaire de l'armistice de 1918. Le président Emmanuel Macron était accompagné de nombreux chefs d'État du monde, et notamment subsahariens. Sénégal, Côte d'Ivoire, Niger, Guinée, Mali étaient présents. En février 2014, à l'inauguration du mémorial du soldat musulman à la Grande Mosquée de Paris, le président de l'époque, François Hollande, rappelait le souvenir de ces hommes morts pour la France. En 1914, 180 000 tirailleurs furent recrutés en Afrique noire, essentiellement au Sénégal. Et d'autres venaient des Comores, de Djibouti et d'ailleurs. Ils étaient conscrits, engagés ou combattants volontaires. Ces hommes se sont illustrés. À la fin de la guerre, les unités françaises furent parmi les plus décorées de l'armée française. Les tirailleurs sénégalais reçurent en 1919 la croix de guerre des mains de Georges Clemenceau. Le président de la République ajoutait, François Hollande ajoutait, la fraternité née de ces conflits a ancré l'islam dans la République. La France est grande de sa diversité, elle est forte de son unité, le devoir de mémoire honore une nation, il permet le rassemblement de tous, car nous partageons le même destin, tous, quel que soit qu'on soit juif, musulman, catholique, sénégalais, marocain ou algérien. En effet, des soldats musulmans. En effet, des soldats musulmans subsahariens ont participé à la première et deuxième guerre, ont libéré l'Alsace et reposent aujourd'hui dans des cimetières militaires de la région. Dans de nombreux cimetières militaires de la région, il y a des soldats musulmans subsahariens qui y sont enterrés. Les archives municipales regorgent de nombreuses illustrations. Dans de nombreuses villes alsaciennes, il existe plusieurs rues leur rendant hommage aussi depuis 1946. Et Mulhouse est pourvue d'un cimetière militaire où il repose en paix, et d'une rue, l'avenue de la 9e division d'infanterie coloniale, une division de 3 régiments de tirailleurs sénégalais qui participa à la libération de Mulhouse et de nombreux villages en 1945. Et c'est pour rendre un hommage, un juste hommage à l'ensemble de ces hommes que la municipalité a décidé en 1946 de leur donner le nom de cette avenue dans un quartier chic de Mulhouse, dans les hauteurs de Mulhouse, dans un quartier plutôt huppé. Là, on voit les carrés musulmans qui sont Là, on a une nécropole à Akirch, à 25 km de Mulhouse. C'est des gens qui sont morts pendant la première guerre. Et à côté, à droite, c'est la nécropole de Cernay, à 20 km de Mulhouse. C'est des tombes de la deuxième guerre. Donc, on a des tombes de la première guerre et de la deuxième guerre. Mais c'est essentiellement à partir des années 1960 et 1970, comme dans le reste de la France, que des communautés subsahariennes vont venir s'installer dans l'agglomération mulhousienne. L'Alsace fait partie des grandes régions liées au développement économique du pays. Et Mulhouse est une importante, était, et l'est toujours un peu, une importante ville industrielle. Le marché de l'emploi a été un levier décisif. Les immigrés subsahariens sont venus pour travailler en répondant aux besoins de main-d'œuvre de l'industrie automobile, Peugeot Mulhouse, du textile, des mines de potasse, du bâtiment, des travaux publics, de la SNCF, de l'aménagement du Rhin par EDF. Ils sont principalement sénégalais, maliens, guinéens, ivoiriens ou camerounais. La présence des musulmans d'origine subsaharienne reste néanmoins minoritaire par rapport aux populations du Maghreb, d'Afrique du Nord, Algérie, Maroc, Tunisie et des Turcs. Il y a une forte population turque en Alsace. Il existe plusieurs associations de sensibilité africaine dans cette ville, dont les Guinéens, les Camerounais, les Waoundé du Sénégal et les Soninkés d'Alsace qui sont les seuls à gérer un lieu de culte à Mulhouse, à Mosquée Aboubakar. La population de cette ville par la diversité de ses origines et son tissu associatif, est intéressante à étudier. Elle dispose d'une quinzaine d'associations administrant des lieux de culte et d'une dizaine d'autres éducatifs et culturels. Les membres de la communauté musulmane se dispersent entre ces associations organisées selon leurs origines géographiques, sensibilités culturelles ou idéologiques. Cette diversité montre que l'histoire et le rapport de la religion d'une association à une autre ou d'une structure à une autre sont différentes. Il y a mille et une façons de vivre sa croyance, mais ce sont les associations musulmanes et leurs fidèles qui donnent les couleurs et les saveurs de l'islam, l'islam public, entre autres. Les associations musulmanes de Mulhouse forment une véritable mosaïque ethnique, nationale, culturelle et cultuelle. Elles correspondent, pour l'essentiel, à la socialisation des premiers immigrés musulmans. Encore aujourd'hui, elles correspondent à l'essentiel à la socialisation des premiers immigrés musulmans. Donc là, vous voyez, j'ai mis la liste de toutes les associations. Donc l'association Nour, c'est une association Amal liée à l'UIF, la mosquée de Nasser, centre islamique des Algériens, la mosquée Selem, institut de sensibilité marocaine, la mosquée Kouba, foyer pratique, Tablir, la mosquée Rahmar, PSM, la mosquée des Coteaux, une association de quartier qui est fréquentée par toutes les gens du quartier, la mosquée de l'association culturelle et culturelle de l'agglomération mulhousienne, c'est un imam qui était dans une mosquée, qui a été licencié, qui a créé sa propre mosquée. La mosquée, vous voyez, tout c'est complexe. La mosquée du Ditib, centre culturel turc, la mosquée de l'association Miligorus, les Turcs, on a une population turque qui a toutes les sensibilités aussi, qui serait aussi intéressante à étudier. Une association aussi culturelle bosniaque. L'association des Soninkés d'Alsace est la seule association de sensibilité subsaharienne à administrer un lieu de culte, la mosquée Aboubakar. Les statuts ont été adoptés en 2000. L'association est inscrite au tribunal d'instance. En Alsace, les associations sont inscrites au tribunal d'instance et pas à la préfecture, donc en 2000. En septembre 2017, le bureau de l'association se compose essentiellement de responsables d'origine malienne, mais de nationalité française. Il y a une personne qui est née en Mauritanie. L'amicale des Africains a été la dénomination première à la création. Mais aujourd'hui, elle a changé de nom. Elle est dans un quartier de la ville, à Nashen, où il y a une forte concentration de mosquées turques. L'association occupe un bâtiment de 2 étages qu'elle a réaménagé en lieu de rencontre et de lieu de culte qui respecte visiblement les établissements recevant du public. Donc il y a des normes quand on crée une mosquée ou quand on prend, il faut respecter des règles de conformité, de sécurité, d'accessibilité. Et le lieu a un ascenseur, donc qui visiblement respecte les normes d'accessibilité. La mosquée se nomme Aboubakar du nom du plus fidèle compagnon du prophète de l'islam. Il n'y avait pas que Bilal, parfois c'est Aboubakar. L'édifice est sobre et chaleureux. C'est un lieu de prière et de partage. Le premier est réservé aux femmes, le rez-de-chaussée aux hommes. Le lieu de culte Aboubakar est fréquenté par les fidèles d'origine subsaharienne, mais aussi maghrébine. Lors des prières quotidiennes, et plus particulièrement pendant les prières du mois de Ramadan. Vous savez, les Maghrébins vont, pendant le mois du Ramadan, je me souviens, il y a une, il y a une, Les Maghrébins, voilà, parce que la personne qui venait du Sénégal et avait une belle lecture du Coran. Et donc les jeunes aimaient aller dans cette mosquée pour écouter les prières de Tarawih, les prières du soir du Ramadan. L'imam d'origine malienne est bénévole. Le discours se fait en langue soniquée et française. Quant à la prière, elle est accomplie en langue arabe. Des événements religieux sont organisés, naissance, mariage, sadaqa, et par décision de l'Assemblée Générale. Donc au départ, elle était dans un quartier périphérique de Mulhouse. Aujourd'hui, elle est dans ce quartier-là. Je vais aborder une volonté municipale dans les années 90. Au début des années 90, la ville avait tenté de centraliser l'islam autour d'une grande mosquée garantissant. Donc là, j'ai mis l'extrait de l'association, l'extrait du tribunal. Au début des années 90, une nouvelle municipalité arrive à la mairie et s'implique dans la question musulmane. Il y a tous les débats de l'islam à cette époque-là, et la ville, c'était une jeune municipalité qui avait moins de 40 ans, et la ville tente de centraliser l'islam local. Tous les acteurs musulmans sont sollicités, un grand bâtiment vacant d'une ancienne caserne est mis à disposition pour les prières. La ville signe un accord avec les responsables d'une dizaine d'associations, l'association des Sénégalais, l'amicale des Maliens, des travailleurs marocains, des Tunisiens, le centre culturel turc, les anciens combattants français musulmans, les harkis, l'association Foi et Pratique. Il s'agissait d'un accord permettant à terme la création d'une grande mosquée indépendante et garantissant la représentativité sans distinction d'origine. Le conseil islamique était fondé. Mais dès sa formation, dans les années 90, des tensions apparaissent. Un an plus tard, le premier président marocain démissionne. Il est remplacé par un président sénégalais, mais cela n'empêche pas les associations adhérentes de quitter les unes après les autres le conseil islamique et les locaux de la caserne Lefebvre pour créer leur propre lieu de culte. Et c'est à partir de là, en tout cas à Mulhouse, qu'il y a eu toute une série de mosquées. La mosquée des Marocains, la mosquée des Turcs et d'autres mosquées. Plusieurs facteurs permettent de comprendre cet échec. Les initiateurs ont sous-estimé les difficultés en termes de divergence ethnique et de production d'un langage commun à l'islam, notamment turc et maghrébin. Ce blocage repose aussi sur un conflit de leadership, mais aussi sur la langue et les pratiques rituelles. Les communautés maghrébines, subsahariennes et turques ne parlent pas la même langue et n'ont pas la même culture et n'ont pas la même sensibilité. Les musulmans d'Afrique du Nord et subsahariens et les autres, les turcs, n'ont pas le même rite. Bien qu'ils soient sunnites, les uns sont malikites, les autres sont hanafites, et vous savez, dans la prière, c'est un peu différent. Les associations sont essentiellement communautaires, leur discours respectif est le produit des sensibilités des pays d'origine. Le conseil islamique, au bout d'un an et demi, deux ans, est alors définitivement un échec. Avant-dernier point, visibilité de l'association des Soniquais dans son environnement. Coordination des mosquées mulhousiennes, CRCM et GAIC. Depuis 20 ans, le parc des expositions de Mulhouse est mis à la disposition de la coordination des mosquées mulhousiennes. En 2017, cette coordination regroupe les mosquées An-Nour, An-Nasser, As-Salem, les Algériens, les Marocains et l'IOIF. Elles se réunissent sporadiquement et essentiellement à l'occasion de l'organisation des prières des grandes fêtes musulmanes. La mosquée Abou Bakr n'y fait pas partie. Il s'agit ici d'une question de domination des trois principales mosquées sur les autres. Aussi, l'association des Soniquais ne prend pas part à l'élection du conseil régional du culte musulman. Ne prend pas part au culte musulman. Il semblerait que ce soit par désintérêt et pour d'autres parce qu'ils n'y sont pas invités. À Mulhouse, il existe une antenne du groupe d'amitié islamo-chrétien et une aumônerie musulmane des hôpitaux dans lesquels ne participent pas les membres de l'association. Très peu de mosquées sont engagées dans le dialogue interreligieux et l'aumônerie musulmane. L'implication des musulmans d'origine au sein du tissu associatif communautaire. Néanmoins, l'islam permet de dépasser les différences ethno-culturelles lorsqu'il ne s'agit pas de paralyser représentants reposant sur le leadership et la représentativité publique des associations. En effet, l'imam remplaçant de la mosquée Selem, sensibilité marocaine, est une personne d'origine soudanaise. L'imam de la mosquée Kouba, quartier de Bourzilère, était durant plusieurs années un jeune d'origine malienne. Et l'un des imams officiels de la mosquée Nour, affilié à l'UOIF, est un jeune guinéen formé à l'Institut européen des sciences humaines. Enfin, au sein de l'Association des musulmans d'Alsace, le président des Guinéens de Mulhouse est un membre actif du conseil d'administration et du lieu de culte. Toutes ces mosquées sont fréquentées par des originaires d'Afrique subsaharienne, toutes les mosquées de la ville. Au terme de notre présentation, pour conclure, plusieurs éléments émergent sur la réalité musulmane d'origine subsaharienne. Leur présence est essentiellement, comme on l'a vu, une immigration économique dont les aïeux ont permis la libération de la région. C'est une communauté dont les associations sont discrètes, sobres, en matière de visibilité et de représentation publique, et dont la mosquée est chaleureuse et fréquentée par tout le monde. Aujourd'hui, les divers acteurs présentent l'islam comme une composante française. Les musulmans sont majoritairement de nationalité française, comme les membres de l'association des Soniquets. L'expression de la différence ethnique et culturelle existe toujours, mais tend doucement à disparaître. Entre les codes culturels ou idéologiques des associations et la réalité musulmane quotidienne vécue, la majorité musulmane d'origine subsaharienne vit sa foi sereinement en fréquentant toutes les mosquées de la ville. La participation active de jeunes Français dans les structures semble contribuer au quotidien à l'émergence d'un islam de France. J'espère avec cette présentation vous avoir donné une idée encore plus précise de la communauté musulmane subsaharienne. Et encore une fois, merci aux organisateurs et merci à tous pour votre attention.